au quotidien avec Yvan Deslauriers.
Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Nous sommes mardi 8 juillet et il va faire une superbe journée d'été aujourd'hui. Pas trop chaud, je pense. Puis très beau. Moi, ça fait deux soirs que j'avais prévu faire du barbecue. Et hier, j'en ai fait quand même. Mais je te trempe.
Il va falloir rentrer le barbecue à l'intérieur de votre maison, je pense, mon cher Yvan.
Je pense que c'est très dangereux de faire ça. Mais il est tout près. Il est tout près de notre entrée, notre porte-patio. Alors, je faisais cuire les morceaux de poulet à la pluie battante. Non, on n'a pas mangé dehors quand même. Bonjour Mathieu Tessier.
Bonjour Yvan Deslauriers.
Et vous, est-ce que vous soupiez en dedans, j'imagine, comme dimanche?
Oui, mais pas pour les mêmes raisons.
Parce que c'était prévu comme ça.
Parce que c'était prévu comme ça.
Alors, aujourd'hui et demain, il semblerait qu'il va faire deux très belles journées d'été. On ne sera pas accablé par la chaleur. Ça va être ensoleillé. Il va faire juste beau. Juste tout simplement beau. Alors, ceux qui ont des gazons à tondre, ça va être le bon temps parce qu'il y a beaucoup mouillé. Et il va mouiller aussi. Ça me fait un peu de peine parce que j'ai des amis qui font un défi vélo pour la maison des greffés Linacire. Ils partent jeudi, il me semble que c'est jeudi. Jeudi, vendredi, oui. Alors, il annonce pas du beau temps pour l'instant. Alors, on espère que ça va changer d'ici là. À l'émission d'aujourd'hui, on va faire évidemment la revue des... Les unes aujourd'hui, là, c'est vraiment des unes d'une journée d'été. Les trois journaux que j'ai regardés, je pense qu'il y a une qui est semblable dans deux journaux. Le reste, toutes des affaires disparates. Alors, je vais faire comme si je vous lisais les unes, puis vous étiez dans la cuisine chez moi. Là. Puis je vous dis, ah, il faudrait que tu saches telle chose. Tiens, il y a Marie qui m'appelle, je ne sais pas pourquoi. Justement. Ensuite... On va parler à Carmen Sylvestre. Est-ce que vous connaissez... Je pense que vous connaissez Carmen Sylvestre, mais vous ne savez pas que c'est son nom.
Oui, exactement. Je ne suis pas très bon de toute façon avec les noms. Donc.
Est-ce que vous avez regardé soit Stat ou Indéfendable dans la dernière saison?
Jamais.
D'accord. Donc, alors, suivez-moi dans cette entrevue-là, parce que Carmen Sylvestre, c'est une personne qui a un parcours étonnant. Elle a commencé à faire de la télévision et elle va faire du théâtre dans quelques jours. Mais elle a commencé à l'âge de 48 ans. Alors, c'est pas un parcours qu'on connaît normalement. Donc, on va parler avec elle. C'est une personne qui est dans ses rôles, elle est charmante. Alors, je m'attends à une belle entrevue. Et on va aussi parler à Anne-Marie Aubin, qui va nous parler de livres, et elle va nous parler particulièrement de poésie. Et c'est pas un type de lecture que je fais normalement, que ce soit l'été ou pas. Alors, je suis très heureux qu'Anne-Marie nous propose ce type de lecture-là, parce que je pense que je vais être tenté. Alors, c'est un peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Et évidemment, à travers tout ça, il y a des actualités, il y a des para-actualités aussi. Alors, c'est le menu à notre émission et ça commence avec une chanson en reprise.
M'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps, qui est mort ou qui reviendra, en serrant dans ma main tes petits doigts. Lui donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Et entendre ton rire qui les arde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures. Te raconter un peu comment j'étais minot, les bons becs fabuleux qu'on piquait chez le marchand, car en sac et minto, caramel à 1 franc et les mistral gagnants. va marcher sous la pluie 5 minutes avec toi et regarder la vie tant qu'il y en a. Te raconter la terre en te bouffant des yeux, te parler de ta mère un petit peu. Et sauter dans les flaques pour la faire aller, bousiller nos godasses et se marrer. Et entendre ton rire comme on entend la mer s'arrêter, repartir en arrière. Te raconter surtout les carambars d'antan et les cocoboères. Et les vrais roux-doudous qui nous coupaient les lèvres et nous niquaient les dents. Et les mistrales gagnants. M'asseoir sur mon banc 5 minutes avec toi et regarder le soleil qui s'en va. Te parler du bon temps qui est mort et je m'en fous. Te dire que les méchants c'est pas nous. Que si moi je suis bas, je n'ai que de tes yeux, car ils ont l'avantage d'être deux. Et entendre ton rire s'envoler aussi haut que s'envolent les cris des oiseaux. Te raconter enfin qu'il faut aimer la vie et l'aimer même si le temps est assassin et on porte avec lui les rires des enfants et les Mistral gagnants. Et les Mistral gagnants.
Chanson de Renaud, ici interprétée par Cœur de Pirate.
Oui, et j'avais beaucoup aimé la version de Renaud à l'époque, mais la voix de Renaud a été très affectée par toutes sortes de choses. Alors, cette version de Cœur de Pirate me satisfait au moins tout autant. Dans les unes... Ah oui, on est autour de la table de cuisine, c'est vrai. La seule nouvelle qui est reprise, je lis présentement La Presse, Le Devoir et le Journal de Montréal, la seule nouvelle qui est reprise dans Le Devoir et dans La Presse, c'est par rapport à Gilbert Rozon qui, du côté du Devoir, ça nous dit « En contre-interrogatoire, Gilbert Rozon maintient sa ligne de défense », c'est-à-dire qu'il avait maintenu, il disait que ce que les femmes qui le poursuivent prétendent, ce sont des fabulités, des choses qu'elles ont inventées, ça n'est pas vraiment arrivé. Du côté de La Presse, on dit « Rozon mis face à ses contradictions », c'est que l'avocat qui représente les différentes femmes qui le poursuivent a utilisé des entrevues qui ont été faites lors d'émissions passées, même, je pense, en 2011, l'avocat a repris certaines choses que Gilbert Rozon aurait dites à cette époque-là pour tester l'évolution de son idée par rapport à différents événements qui se sont passés. Je m'en tiens là parce que peu importe comment qu'on voudrait commenter cette nouvelle-là, on expose un biais, alors je vais m'en tenir à ce qui est écrit dans ces deux journaux-là. Dans le Devoir, on dit que, on dit que Jocelyne Robert n'est plus sexologue. Elle a démissionné de son ordre professionnel à la suite de plaintes visant des propos sur les questions trans. C'est un article de Jessica Nadeau. Elle dit, on m'a mise dans une impasse où je n'avais pas le choix. Entre deux mots, si je peux m'exprimer ainsi, je me suis dit aussi bien démissionner. Jocelyne Robert n'est plus sexologue à la suite de plaintes à son égard concernant des propos controversés sur les questions trans. Elle a démissionné de l'Ordre professionnel des sexologues du Québec, l'OPSQ, abandonnant ce titre qui l'a fait connaître du grand public depuis plus de 40 ans. Elle dit « Je suis profondément triste de cette issue ». Mais il n'y en avait pas d'autre pour moi. a-t-elle confié au Devoir. Elle s'est sentie, entre guillemets, bâillonnée, puisqu'on lui demandait de se ranger derrière une école de pensée à laquelle elle n'adhère pas. On m'a mise dans une impasse où je n'avais pas le choix. Entre deux mots, si je peux m'exprimer ainsi, je me suis dit aussi bien démissionner. En mai 2023, Jocelyne Robert a co-signé une lettre ouverte dans le Journal de Montréal intitulée « Identité de genre, les parents ont droit à la transparence, M. Drainville ». Dans ce texte, Mme Robert et une vingtaine d'autres signataires, professionnels, parents et représentants du mouvement pour les droits des enfants du Québec, dénonçaient une politique du ministère de l'Éducation qui recommandait aux écoles de procéder au changement de genre des enfants dans leur dossier sans en informer les parents. Pour eux, il était inadmissible de cacher de telles informations aux parents. Ils affirmaient également qu'une transition sociale n'est pas un acte thérapeutique neutre et évoquaient des risques à la prise de bloqueurs de puberté. Alors, je vous invite à jeter un coup d'œil sur cette nouvelle, d'autant plus que Jocelyne Robert a été vraiment une voix importante en sexologie. Depuis une quarantaine d'années. Alors, je pense que son point de vue mérite qu'on le considère. D'ailleurs, je souligne aussi que dans le Devoir, à la page A3, il y a Jean-François Lisée qui fait une chronique qui s'appelle « Les gardiens du dogme » et il se demande quelle est l'ampleur de cette traque des dissidents. Impossible de le savoir, l'Ordre des professionnels sexologues du Québec refuse de révéler combien de demandes d'enquête ont été déposées contre ces sexologues qui osent soulever des doutes. Donc, je pense que c'est un débat à considérer. Est-ce que vous vous souvenez, à une époque, il y avait des affiches un peu partout de American Apparel? C'est une compagnie américaine qui faisait la promotion de vêtements qui étaient relativement abordables, qui étaient conçus aux États-Unis. Alors, dans Le Devoir, on dit « Comment l'icône American Apparel s'est effondrée ?» Un nouveau documentaire revient sur l'ascension fulgurante de la marque de vêtements et sur sa chute brutale. Il y a un documentaire sur Netflix à ce sujet-là. Du côté du Journal de Montréal, ça, c'est une nouvelle étonnante. C'était trop beau pour être vrai. Des maisons chauffées au bitcoins, des Tadros. Là, je dis ça, puis ça a l'air complètement... En tout cas, pour moi, ça avait l'air complètement... J'avais aucune idée de quoi on parlait. Alors, les frères Tadros, je pense que c'est du jumeau, oui, c'est ça, avaient construit des maisons, ont bâti des maisons qui seraient chauffées par le minage du bitcoin. C'est-à-dire que dans le sous-sol de quelque part de votre maison, là, il y a du minage de bitcoin. C'est quoi du minage de bitcoin? C'est des ordinateurs. C'est d'appareils très puissants pour résoudre des calculs permettant de valider des transactions en bitcoin. Alors ça crée de la chaleur. Et pour le propriétaire de la maison, pour héberger ça, il reçoit de l'argent et il chauffe sa maison. Jusque-là, ça va bien. Sauf que pour faire marcher les ordinateurs, ça coûte de l'électricité. Et c'était des factures de 3 000 $ d'électricité par mois à un certain moment donné. Ça coûtait plus cher d'électricité que le retour en Bitcoin. Alors, c'est ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. Ça m'a pris une bonne demi-heure pour essayer de comprendre cette affaire-là. J'espère que je vous l'ai décrit comme il faut. Et dans la presse, il y a deux nouvelles qui a pris mon intérêt. D'abord, il y a la compagnie SAP, ou SAP, dépendant comment c'est une compagnie d'informatique. C'est une compagnie très importante, une compagnie allemande. Elle a été prise dans des problèmes de pots de vin, etc. Et elle a payé des montants, entre autres aux États-Unis, pour ne pas être poursuivie. Ce qui fait qu'elle pouvait déposer sa candidature pour des appels d'offres, dont à la SAQ. Alors, vous voyez l'affaire. Donc, ça, c'est une des choses en une de la presse. L'autre, c'est la suite de la tempête au Texas. On est rendu à plus de 100 morts. Et il y a des onglets intéressants. Il y en avait hier aussi, là, mais il y a des onglets intéressants dans cet article de la presse qui explique, qui donne des réponses aux questions qu'on se pose sur est-ce que les alertes auraient pu être données de telle ou telle façon, et ainsi de suite. Alors, ça fait le petit tour une d'été d'aujourd'hui.
T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur, on a vu ta mère. Comme toujours. T'as plus aimé Vierzon, on a quitté Vierzon. T'as plus aimé Vesoul, on a quitté Vesoul. T'as plus aimé Honfleur, on a quitté Honfleur. T'as plus aimé Hambourg, on a quitté Hambourg. T'as voulu voir Anvers, on a vu que c'est faubourg. T'as plus aimé ta mère, on a quitté ta sœur. Comme toujours. Mais je te le dis, je n'irai pas plus loin. Mais je te préviens, j'irai pas à Paris. D'ailleurs, j'ai horreur de tous les flonflons, de la valse musette et de l'accordéon.
J'ai voulu voir Paris et on a vu Paris.
T'as voulu voir Dutron et on a vu Dutron. J'ai voulu voir ta sœur, j'ai vu le Mont Valérien. T'as voulu voir Hortense, elle était dans le Cantal. J'ai voulu voir Byzance et on a vu Pigalle. À la gare Saint-Lazare, j'ai vu les fleurs du mal. Par hasard. T'as plus aimé Paris, on a quitté Paris. T'as plus aimé Dutron, on a quitté Dutron. Maintenant je confonds ta sœur et le Mont Valérien. De ce que je sais d'Hortense, j'irai plus dans le Cantal. Et tant pis pour Byzance, puisque j'ai vu Pigalle. Et la gare Saint-Lazare, c'est cher et ça fait mal. Au hasard. La valse musette et les bateaux mouches.
T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers et on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère. Comme toujours. T'as plus aimé Vierzon, on a quitté Vierzon. T'as plus aimé Vesoul, on a quitté Vesoul. T'as plus aimé Honfleur, on a quitté Honfleur. T'as plus aimé Hambourg, on a quitté Hambourg. T'as voulu voir Anvers, on a vu que c'est faubourg. T'as plus aimé ta mère, on a quitté ta sœur. Comme toujours.
Chauffez les gars. Mais je te le dis, je n'irai pas plus loin. Mais je te préviens, j'irai pas.
Paris, on a vu Paris. T'as voulu voir Dutron et on a vu Dutron. J'ai voulu voir ta sœur, j'ai vu le Mont Valérien. T'as voulu voir Hortense, elle était dans le Cantal. J'ai voulu voir Byzance et on a vu Pigalle. À la gare Saint-Lazare, j'ai vu les fleurs du mal. Par hasard. T'as plus aimé Paris, on a quitté Paris. T'as plus aimé Dutron, on a quitté Dutron. Maintenant je confonds ta sœur et le Mont Valérien. De ce que je sais d'Hortense, j'irai plus dans le Cantal. Et tant pis pour Byzance, puisque j'ai vu Pigalle. Et la gare Saint-Lazare, c'est cher et ça fait mal. Au hasard.
À Avez-vous reconnu la chanson de Jacques Brel?
Oui, bien sûr.
Avez-vous reconnu quelques intonations de ce chanteur?
Pas du tout.
C'est le fils de Jacques Dutronc, Thomas Dutronc, qui chantait Vesoul.
C'est une très belle version. De mon côté, du côté des actualités, je vis un article que j'ai trouvé dans la presse d'aujourd'hui, présenté par Catherine Enfield. Ça s'intitule « Lueur d'espoir dans la lutte contre le cancer de la prostate. Québec rembourse un nouveau traitement ». Depuis le 2 juillet, le traitement Pluvitco est remboursé par le régime public du Québec. Ce traitement est approuvé pour une minorité de patients, ceux qui sont atteints d'un cancer de la prostate métastatique et qui ont déjà essayé l'hormomonothérapie et la chimiothérapie. Le Pluvitco prolonge la vie de ces patients de 4 mois environ, parfois moins et parfois plus. Et là, on nous raconte l'histoire de Jean Grachevski, qui a appris la nouvelle au téléphone. Il était en compagnie de sa femme Céline. « On s'est pris dans les bras et on a versé des larmes », raconte-t-il. « Puis j'ai appelé mes deux fils et on a pleuré en famille de joie. » Cette nouvelle que Jean Grachevski espérait depuis longtemps, c'est l'ajout du Pluvitco à la liste des médicaments remboursés par le régime public du Québec. Le Pluvitco est issu d'une nouvelle génération de médicaments contre le cancer. Pour le moment, il est destiné aux patients qui souffrent d'un stade avancé du cancer de la prostate métastatique et qui ont déjà essayé l'hormonothérapie et la chimiothérapie. Le Pluvitco donne donc l'espoir à ces patients qui se savent condamnés de vivre plus longtemps. Jean Krajewski, 65 ans, a reçu son diagnostic de cancer de la prostate à 55 ans. Son cancer s'est propagé. L'été dernier, il a lancé une pétition pour exiger l'accès des Québécois au Pluvitco qui était déjà approuvé par Santé Canada. Les négociations s'éternisaient entre la société pharmaceutique Novartis qui produit le Pluvitco et l'Alliance pan-canadienne pharmaceutique qui représente les provinces et territoires dans les négociations. Le traitement total de Pluvitco coûte environ 140 000 $ et consiste en 6 injections, chacune espacée de quelques semaines. Les négociations ont abouti à la fin de l'année 2024. Plusieurs provinces canadiennes, dont l'Ontario, l'Alberta et la Colombie-Britannique, ont approuvé le remboursement, mais le Québec tardait à emboîter le pas. M. Grachevski nous dit « Je vous avoue avoir vécu des hauts et des bas. Je n'ai jamais arrêté d'y croire. » Le Pluvitco fait partie d'une classe appelée « traitement par radioligand ». Depuis 2019, Santé Canada approuve un autre traitement issu de cette famille, le Lutathera, pour les tumeurs neuroendocrines, une maladie rare. Maintenant, on a donc l'équivalent pour le cancer de la prostate, qui touche une population beaucoup plus importante, souligne le docteur Frédéric Arsenault, qui est président de l'Association des médecins spécialistes en médecine nucléaire du Québec. Au Québec, entre 100 et 200 patients par année pourraient, selon lui, en bénéficier. Quel est le mode de fonctionnement? C'est une molécule ou une protéine à laquelle on vient fixer un atome radioactif. Les atomes ont deux rôles. L'un d'eux nous permet de faire des images pour voir la distribution du cancer partout dans le corps. Et le deuxième va délivrer de la radiothérapie à l'intérieur du corps, spécifiquement au niveau des tumeurs. Comme le traitement est ciblé, les effets secondaires sont limités, nous dit le docteur Arsenault. Le Pluvitco peut être donné en dernier recours juste avant la dernière ligne de chimiothérapie. Les médecins doivent d'abord essayer l'hormonothérapie et une première chimiothérapie. C'est une autre façon de traiter cette minorité de patients qui ont quasiment épuisé tout ce qui pouvait prolonger leur vie, résume le docteur Fred Saad, directeur du département de chirurgie de l'Université de Montréal. Selon les études cliniques, le Pluvitco permet à cette catégorie de patients de prolonger leur vie de 4 mois. Ce chiffre correspond à la médiane. C'est-à-dire qu'il y a la moitié des patients qui gagnent moins que 4 mois de vie, mais l'autre moitié gagne plus que 4 mois. Et dans cette deuxième moitié, on compte quelques patients chez qui le Pluvicto a fonctionné incroyablement bien. Un patient du Dr Saad est en rémission complète après 4 ans. Le Dr Saad nous dit, à ce stade de la maladie, des miracles, ça peut arriver, mais c'est une minorité. J'ai des patients qui ont eu de très belles réponses et d'autres qui ne répondaient pas du tout au traitement. Pourquoi ne pas utiliser le Pluvicto plus tôt dans le cours de la maladie? Après tout, l'avenir dans le traitement du cancer réside dans ces traitements très ciblés. Les études sont en cours, indique le Dr Saad, qui souligne qu'il faut d'abord prouver la sécurité du traitement chez les patients, mais aussi son bénéfice par rapport à d'autres traitements existants. D'autres traitements par radioligand sont à l'étude partout dans le monde. Dans la prochaine décennie, le Dr Frédéric Arsenault s'attend à avoir apparaître une dizaine de molécules sur le marché pour d'autres cancers également. Cancer du sein, cancer du pancréas, cancer pulmonaire, cancer de l'estomac. Jean Krachewski, lui, reçoit depuis 5 ans des traitements d'hormonothérapie qui ont ralenti la progression de la maladie. Mes tests sanguins montrent que l'hormonothérapie est en train d'atteindre la limite de son efficacité. Dit celui qui devrait d'abord tenter la chimiothérapie avant le Pluvicto. Mon combat personnel n'est pas fini, mais c'est un pas qui rajoute de l'espoir, conclut-il. Donc, c'était un article présenté par Catherine Enfield dans la presse, Lueur d'espoir dans la lutte contre le cancer de la prostate. Puis on voit à travers l'article que c'est aussi une lueur d'espoir pour d'autres types de cancers. J'ai des proches qui combattent des cancers et je pense que des lueurs d'espoir comme celle-là, ça devient très important parce que les traitements sont très durs. Les gens sont très, très affectés et on sait que c'est une façon d'arriver à une certaine forme de santé ou de bien-être. Mais quand on arrive à des traitements comme celui qui est présenté ici, le Pluvicto, qui est un traitement très, très, très ciblé sur les cellules qui sont affectées, ben, je pense que ça, c'est un petit soupir de soulagement, que ce soit pour 4 mois ou 2 mois ou beaucoup plus. Mais c'est comme on prend soin de nous puis on essaie de prolonger notre vie. Je pense que c'est ça. C'est ça le message qu'on doit garder. Alors, on fait un premier arrêt et au retour, on va parler avec Carmen Sylvestre et vous allez la reconnaître dès qu'elle veut parler.
Vous écoutez Au quotidien avec Yvan Deslauriers.
Viens-t'en, vieux, assois, on se regarde les yeux.
Je sais t'en aller, viens t'envoler
ciel. J'ai tellement mal aux ailes. Oh, il fait tellement fret. Même avec nos 20 000 allumettes, chacun est assis tout seul sur son île. Les bras ouverts, le cœur fragile. Mais la musique s'en fout. Elle avait un autre rendez-vous. Na, na, na. Na, 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 na.
Danser, une chanson de Fiori Séguin, mais ici chantée par France D'Amour.
J'adore ce jeu des reprises. Vous me faites découvrir tellement de belles choses.
Bien heureux.
Alors, dans les prochaines minutes, je vais avoir aussi un très grand plaisir de parler avec Mme Carmen Sylvestre à propos de la pièce Cougar qui peut. Bonjour, Mme Sylvestre.
Oui, bonjour, Lisa.
Alors, ma première question, je vous le dis d'avance, est très longue. Mais okay. Soyez patiente, puis vous allez voir que est un petit peu la question elle-même est un petit peu drôle, vous allez voir, mais ça résume un petit peu votre parcours. Alors, okay. J'ai imaginé qu'il y a une trentaine d'années environ, vous êtes allé voir une diseuse de bonne aventure. Et elle a regardé dans sa boule, dans ses feuilles de thé, les lignes de votre main, et elle vous a dit, dans les prochaines années... Vous jouerez dans une publicité de l'Auto-Québec qui va frapper l'imagination des gens. Vous jouerez dans une série télévisée où vous jouerez des tours à des plus jeunes. Vous jouerez dans la... Vous jouez tout le temps, finalement. Vous jouerez dans la série la plus populaire de la télé à ce moment-là et vous danserez avec Rémi Girard. Vous jouerez dans une autre série très populaire, un rôle sur la fraude des grands-parents. Peut-être qu'il y a 30 ans, on ne savait pas que ça existait, la fraude des grands-parents. Vous serez chroniqueuse lors d'une émission populaire d'été. Et finalement, vous aurez un rôle au théâtre, une retraitée qui refuse de plier devant le temps. Alors, Mme Sylvestre, est-ce que vous allez payer votre consultation à la diseuse de Bonaventure?
Ben, écoutez, là, je vous écoute, j'apprends tout ça. La seule chose, c'est j'aurais bien aimé ça, aller voir une diseuse de bonne aventure ou, comment on dit ça, une tireuse de thé.
Oui, oui, oui.
J'aimerais ça. J'aimerais ça, là, s'il y en a qui S'il y en a qui en connaissent, là, j'aimerais ça avoir des noms. Parce que, avant, c'était populaire. Le monde buvait du thé en feuille, il ne buvait pas du thé en poche.
Oui, effectivement. Mais est-ce que vous auriez cru tout ce qu'elle vous a annoncé?
Ah, ben j'aurais dit qu'elle a fumé du bon.
Puis on ne parle pas du thé à ce moment-là.
Non, écoutez, c'est tout, comme je le dis souvent, mais c'est tout des cadeaux qui arrivent. La vie me réserve des surprises. Puis c'est sûr que quand j'ai commencé le théâtre et l'université à 55 ans, moi, disons que j'avais envie d'apprendre, j'avais envie de découvrir. Puis, écoutez, depuis ce temps-là, là, c'est sûr que ça s'enchaîne. Je me trouve super chanceuse. Puis là, comme vous avez dit, ben votre question est à longue, mais c'est quand même, ça m'a dit, ouais, pas mal. Mmh,
c'était un beau parcours.
Ah, hein? Oui,
est-ce que votre vie de tous les jours a un petit peu changé? Est-ce qu'on vous aborde à l'épicerie, par exemple?
Oui, ça c'est sûr, là. Mais les gens sont super gentils. Oui, ça fait une petite secousse, là. Des fois, comme je dis, c'est au début, c'était c'est la madame des détestables.
Oui,
après ça, c'est c'est la madame raccroche. Puis là, je suis rendue que je m'en fais dire c'était la madame de staff.
Oui.
Puis maintenant, écoutez, les gens me disent bonjour, Carmen.
À ce point, on vous est rendu à ce point d'intimité-là?
Oui. Puis, moi-même, des fois, je suis surpris. Hier, je suis allée. Là, on est justement à Kings-et-Fort, là, pour la pièce qui commence cette semaine.
Oui.
Et puis, même si à l'épicerie, là, je m'en attends pas tout le temps, mais. Les gens, allô Carmen, bonjour Carmen, vous vous emmenez au théâtre, ou des fois je rentre dans un ascenseur, ou peu importe. Mais vous savez, là, le public québécois, ils sont super gentils, puis moi, ça me fait un grand plaisir, tu sais, je vais donner la main, s'ils veulent. Avant, c'était des autographes, mettons.
Ah oui.
Mais mettons, là, maintenant, c'est plus des selfies ou juste un bonjour.
Oui.
Juste un bonjour. Puis avant, ça me surprenait parce que, tu sais, à un moment donné, il y a quelqu'un qui vient m'ouvrir la porte. Bonjour, Mme Sylvestre. Je pensais que c'était quelqu'un qui était comme à l'accueil. Mais non. Alors, on me dit, je vous ai vu hier dans telle chose.
Mm-hmm.
Mais je me lasse pas de le répéter, mais c'est des beaux cadeaux de la vie.
D'ailleurs, est-ce que vos enfants vous taquinent un peu sur votre célébrité?
Pas taquiner. Puis des fois, je pense la semaine passée, une de mes filles elle me dit « Hey, man, là, tu sais, c'est drôle là, d'avoir un mec qui commence à être connu. » C'est sûr, ils ont connu la maman à la maison.
Oui,
parce que j'ai toujours été quand même à la maison. Moi, j'ai gardé ma mère. Après ça, j'ai eu une garderie pendant 10 ans. J'ai élevé ma famille, comme on dit. Et puis après ça, quand j'ai commencé à suivre des ateliers de théâtre, mais j'étais toujours à la maison.
Mm-hmm.
Puis j'ai été préposée aux bénéficiaires pendant 2 ans. J'ai fait quand même beaucoup de choses. Fait que ça m'a donné de l'expérience un petit peu dans tout. Là.
C'est pas le parcours type des vedettes à l'écran, en tout cas.
Ben, c'est le mien.
C'est ça. Alors, parlons de l'immédiat maintenant, de la pièce Cougar qui peut. Est-ce que c'est la première fois que vous montez sur les planches? Parce que vous avez suivi des cours dans le passé, mais je...
Oui, j'ai suivi des ateliers de théâtre. Et puis, ma première tournée officielle, c'était c'était juste un petit peu avant la pandémie. Et puis, j'ai fêté mes 70 ans sur la scène. Fait que, on peut dire ça, ça fait 7 ans.
Oui, moi, je me forçais pour pas dire votre âge, là, mais c'est comme un peu révélé maintenant.
Non, ben c'est ça, parce que là, ça me revient, là. C'est comme, on jouait au théâtre, j'étais avec la troupe La Comédie Humaine.
Oui, oui.
par M. Martin Lavigne. Mm-hmm. Et puis, on était en tournée. Puis, c'est ça. Là, on avait joué l'après-midi devant les écoles, devant les jeunes qui sont aux études. Et le soir, on a joué devant le grand public. Puis, c'est ça. J'ai eu deux fêtes. L'après-midi, le soir. Puis, ma famille sont venues. Mes enfants sont venus. Puis, je suis contente. Tu sais, c'est comme... Mm-hmm. Fait que là, ben, bientôt, je vais fêter mes 80 sur 5.
on vous le souhaite, même le 90 ans. Puis on a quand même une vedette québécoise qui est rendue à 100 ans, alors il n'y a plus de limite.
Oui,
là.
Oui. Ben, tu sais, comme des fois, quand les gens disent, tu sais, vous avez commencé à 50 ans, mais c'est tellement jeune, 50 ans, là. Tu sais, je regarde, là, les gens de 50 ans, c'est tous des beaux jeunes pour moi, là. Je parle pas juste des beaux hommes.
Parlant
que ce soit un gars, que ce soit une femme, ben, tu sais, c'est 50 ans, là, je vous dis, c'est comme... pour moi, ça, c'est la jeunesse.
Mm-hmm. Parlant de beaux jeunes...
Il n'y a pas d'âge pour faire ce qu'on aime,
oui, vraiment.
C'est... Parce que vous savez, c'était, comment je vous dirais, c'était pas nécessairement un but à atteindre, c'était pas un rêve. C'est que j'ai commencé, je regardais tout ce qui, vous savez, dans les ateliers qui se donnaient, des cours qui se donnaient, un peu de tout. Puis, tu sais, je voyais pas d'intérêt. Ben oui, j'avais d'intérêt pour ci, pour ça, mais c'est quand j'ai vu le cours de théâtre, là, ça l'a allumé quelque chose en moi. Puis là, je me suis dit, ouais, cours de théâtre. Mm-hmm. Mais c'est sûr que quand j'ai commencé... Mais ça m'a donné une chance dans un sens parce que j'ai travaillé beaucoup, beaucoup avec des jeunes. Tu sais. Moi, j'étais toujours là. Ben, dans le temps, c'était comme la madame qui arrive. Tu sais.
Oui.
Fait que non. Puis je me suis sentie à ma place. Je me suis sentie acceptée. Oui, ça, il n'y avait pas de... En tout cas, peut-être un peu, que par certains ou certaines, je ne sais pas. En tout cas, moi, je ne vois
mais
pas ça.
J'imagine facilement que vous entrez dans une salle de cours et que vous faites l'unanimité autour de vous. Mais vous parlez de jeunes, des beaux jeunes, vous avez dit des beaux jeunes, puis ça m'amène à votre pièce. Parlez-nous donc de Cougar qui peut. L'histoire de la pièce.
L'histoire de la pièce, c'est l'histoire de deux sœurs. Assez opposé. Il y a Rose, qui est retraitée, bien tranquille, puis elle ça donne à sa passion, qui est la peinture. Et puis là, ben, il y a sa sœur qui est dans le décor. C'est sa sœur, c'est Brigitte.
C'est vous, Brigitte, la sœur.
Elle n'a pas de limite quand même, là. Mais elle pense toujours qu'elle est dans la quarantaine, puis... Elle débarque chez sa sœur comme si elle était chez elle. Puis à un moment donné, ben, son gigolo, comme on dit, va arriver. Puis il y a son voisin Rose, son voisin Guy, puis son le fils de Rose. Puis ça, c'est un quiproquo.
Oui. Puis c'est une pièce française qui a été adaptée par Marie-Josée Deschamps. Et je pense que vous êtes amis. Marie-Josée Deschamps et vous.
Oui, bien, Marie-Josée, on s'est rencontrés peut-être il y a une vingtaine d'années. On s'est rencontrés sur le plateau de tournage ou au théâtre. Et puis, moi, Marie-Josée Longchamp, c'était mon idole de jeunesse. C'était,
oui.
Vous savez, c'est comme presque le Québec entier. Puis,
oui, tout à fait. Oui.
Des pignons.
Oui, absolument.
Puis, moi, Marie-Josée, vous savez, c'est qui n'a pas d'âge, Marie-Josée, elle ne vieillit pas. Fait que, tu sais, on a développé une amitié, puis c'est ça, elle avait été abordée par le producteur suisse, mm-hmm. C'est Stéphane Sebergas. Puis la pièce, elle jouait, c'est un Suisse, la pièce, elle jouait en France, je pense qu'elle a joué au moins 3 ans. Je ne sais pas si ça se joue encore, là.
Mm-hmm.
Et puis, c'est ça, Marie-Josée, elle a fait l'adaptation québécoise. Et puis, même avec notre metteur en scène, là, présentement, Fabien Dupuis, c'est comme presque une réadaptation parce que, tu sais, les metteurs en scène, ils ont leurs idées.
Fait
que, c'est un petit peu roulant.
Est-ce que c'est Mme Deschamps? Est-ce que c'est Mme Deschamps qui a communiqué avec vous pour vous offrir le rôle de la dévergondée des deux sœurs?
Madame Longchamp.
Oui.
C'est ça. À un moment donné, oui, elle m'a téléphoné, mais c'était pas pour le rôle de la cigare, on va dire.
Okay.
C'était plus pour le rôle de Rose, la retraitée bien tranquille. Puis j'ai rencontré le producteur, puis le producteur, quand il m'a vu, il a dit oui, c'est ma Rose. Mais quand on a commencé à travailler avec le metteur en scène, il a dit, ben là, Carmen, je pense que je vais te donner le rôle de la cougar. Fait que là, ça a fait, ben là, tu l'as une cougar, moi.
D'ailleurs, dans le communiqué.
Là, finalement, vous savez, là, c'était Marie-Josée qui avait le rôle de. Qui avait le rôle de Brigitte.
Parce oui,
que je ne voulais absolument pas qu'elle ait de malentendu. Mais non, Marie-Josée, écoutez, non, c'était. Tout est pour la pièce, le succès de la pièce. J'assume, j'essaye d'assumer. Et des fois, je me dis, non, qu'est-ce que tu as trouvé là-dedans?
Je suis curieux, je vais peut-être aller voir, parce que c'est un choix de rôle vraiment intéressant. D'ailleurs, dans le communiqué de presse qui fait la promotion de la pièce, on parle d'une comédie gériatro-sexy. Alors, sans révéler de punch, ça s'exprime comment, ça, la gériatro-sexy?
Ben là, c'est un grand mot, ça, pour commencer.
Ben, c'est être sexy à un certain âge, je pense.
Gériatrie, oui, c'est un gros mot qui sonne pas mal vieux, je trouve.
Oui.
Mais je vais employer les mots de mon metteur en scène qui dit c'est la revanche des 70s.
Oui, oui, oui.
J'ai mis ça.
Okay.
C'est comme, tu sais, pour montrer que quand même, il n'y a pas d'âge. On peut avoir l'âge qu'on a puis s'accepter comme on est. Parce que, regardez, moi-même, là, si je me regarde dans le miroir, je me dis, Christy, j'ai l'air d'un
cougar.
Mais tu sais, regarde, des femmes, n'importe quel âge, qui aiment la vie, ils aiment l'amour, puis ils aiment les jeunes. Il y en a qui aiment les jeunes, il y en a qui aiment les plus âgés. C'est tout ça, c'est une question de feeling. Mais ils ont le droit. Puis, tu ne fais pas de mal à personne, là.
Absolument.
Si les deux sont, on va dire comme on dit, si les deux sont heureux comme ça, ben allons-y. Puis là, ben, c'est sûr qu'il y a la confrontation des deux sœurs.
Oui, oui, oui.
Puis, tu sais, il y en a une qui a trouvé sa sœur pas mal envahissante. L'autre a trouvé sa sœur pas mal coincée. Fait que, en tout cas, vous allez voir que tout ce monde-là, là, ça finit par se joindre. Puis on a monsieur Paul Dion. C'est pas le Dion, là. Je pense que c'est. Je sais pas combien. Je pense qu'il est conduit à partir de 100 pièces de théâtre qui a joué.
Oui, là. Bien sûr.
Puis on a le Kevin Lapierre.
Mm-hmm.
Kevin Lapierre qui fait mon amant. Puis Alexandre Leroux et puis Yann Rompré. Fait que ça, c'est une belle brochette.
Une belle équipe avec deux sœurs dépareillées qui sont jouées par Marie-Josée Longchamp et avec Carmen Sylvestre. Ça commence tout bientôt, le 10 juillet, on est aujourd'hui
là,
le 8.
On est rendu à Kinevesoir.
Oui.
On est en salle, les QQ, on va faire notre général cette semaine. Et la première est le 10 juillet.
Oui, donc.
C'est là.
Dans deux jours. Dans deux jours. Au Théâtre des Grands Chênes. Puis vous jouez là du 10 au 27 juillet. Mais après ça, c'est pas fini. Vous allez à Rougemont, là, après ça, au Théâtre de Rougemont.
Oui, au Théâtre de M. Jean-Bernard Hébert.
Oui, oui, oui. Du 1er août au 6 septembre.
Oui, oui, oui.
Alors, je vous souhaite énormément de plaisir à faire ce projet-là. Et j'espère vraiment vous revoir dans toutes sortes d'autres projets à l'écran ou sur les planches dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Merci beaucoup, Carmen Sylvestre, pour cette conversation.
Merci à vous. Puis écoutez, si les gens veulent venir nous voir, venir s'amuser, puis on va être là, qu'on va les attendre le cœur ouvert.
Je vous crois sans aucun doute. Alors, passez un bel été.
Ben merci beaucoup, puis bonjour à tout le monde.
Aujourd'hui, j'ai rencontré l'homme de ma vie. Aujourd'hui, au grand soleil, en plein midi, on attendait le même feu vert, lui à pied et moi.
C'était Marie-Pierre Arthur qui reprenait la chanson de Diane Dufresne, « J'ai rencontré l'homme de ma vie ».
Ah, je me suis trompé, je pensais que c'était Marat Tremblay.
Ah, non, mais oui, je peux comprendre pourquoi.
Oui, oui. Alors, pour finir cette belle demi-heure, je suis vraiment encore sur mon petit nuage de l'entrevue qu'on vient de faire. Je vous parle d'un article dans le cahier « Économie du devoir ». Non, non, restez avec moi, bougez pas. Ça, je vous dis, ça vaut la peine. Ça s'appelle « Quand le jeu vidéo sert la cause des enfants malades ». Il y a une campagne de financement par l'entremise du jeu « Dead by Daylight » qui a permis d'amasser, roulement de tambour, 330 000 $ au profit de la fondation du CHU Sainte-Justine. Alors, pendant le mois de mai dernier, les amateurs du jeu d'horreur multijoueur « Dead by Daylight » je ne connais pas ça du tout, pouvait se procurer deux costumes pour le personnage d'Aurella. J'imagine qu'on devait payer pour avoir un costume en particulier pour ce personnage. Mais Behavior Interactive, le développeur, n'a pas vu un sou de revenu de cet achat. Il s'agissait d'une collecte de fonds de dons au profit de la Fondation du CHU Sainte-Justine. Au total, les joueurs ont amassé 329 957 $. D'ailleurs, le président et chef de la direction du studio, qui est basé à Montréal, Rémi Racine, nous disait « Je ne m'attendais pas à ça. Je pensais qu'on allait récolter autour de 100 000 $ quand même. » Faire une campagne de financement par l'entremise d'un jeu vidéo, ce n'est pas inédit, mais c'est encore loin d'être commun. Le jeu Overwatch avait notamment vendu un costume en 2018 afin de recueillir des fonds pour la recherche contre le cancer du sein. Annuellement, les jeux Call of Duty proposent des produits pour financer de l'aide aux vétérans de l'armée américaine. Par communiqué, la Fondation CHU Sainte-Justine a remercié Behavior Interactif et la communauté Dead by Daylight d'avoir transformé créativité et plaisir en un appui concret à la santé pédiatrique. Il y a peu d'occasions pour les joueurs de donner. Je pense que c'est un bel outil. Voilà donc de joindre l'utile à l'agréable. Dernière pause et on revient parler de poésie.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Je connais pas le nom des étoiles dans le ciel, ni des rivières, ni des oiseaux. Honte à moi trop souvent, je connais pas le chemin qu'il me faudrait prendre pour être content. Je connais pas la couleur d'un bill de vin. Je connais même pas le nom de mon voisin. Je connais rien. Mais il va toujours y avoir la neige au mois de janvier. Il va toujours y avoir un feu de forêt dans le temps des bleuets. Toujours y avoir du vent sur le Saint-Laurent. Tu peux pas changer ça. Chante-moi pas. De l'eau dans mon vin. Y vas-tu toujours y avoir quelque chose en moins quand tout ce que t'as c'est une tranche de pain? Et des fois je me dis que je sais d'où c'est que ça vient. Y en a qui ont tout pis toutes les autres y ont rien. Change-moi ça.
Reprenait la chanson de Richard Desjardins, « Y vas-tu toujours y avoir? »
Ah, puis il a bien fait ça.
Oui.
Si je peux me permettre. J'ai le plaisir de parler avec Anne-Marie Aubin. On va parler de littérature et particulièrement de poésie. Bonjour Anne-Marie.
Bonjour.
Alors, faites-moi découvrir des choses.
Alors aujourd'hui, je présente deux recueils qui sont finalement ancrés dans des territoires bien précis. Le premier en Gaspésie, particulièrement dans la baie des Chaleurs, et le second dans les Hautes-Laurentides. Deux poètes écrivaines de deux générations différentes, une qui est née fin des années 50 et l'autre fin des années 70, donc à 20 ans d'intervalle, mais qui ont beaucoup de points communs dans cette façon de parler de leur vie. Toujours en lien avec ce qui se passe autour dans l'observation du paysage, et ça en contraste avec la ville. Alors, le premier recueil, ça s'intitule « La lumière au bout du pays ». C'est écrit par Joanne Morancy, c'est publié aux éditions David, et puis ça s'est mérité tout récemment le prix André Duhaime. Joanne Morancy, elle est née à Montréal, elle a grandi à Sherbrooke, mais elle vit à Maria, en Gaspésie, depuis plus de 35 ans. C'est en quelque sorte une de mes voisines.
Ah oui,
elle
c'est son choix, elle, d'aller vivre en Gaspésie.
Oui, puis elle a choisi d'aller vivre là, puis c'est quand même un choc quand tu viens de la ville, et l'inverse est vrai aussi. Bon, parmi ses publications, elle a fait des haïkus, de la prose, et puis ben, ce recueil-là est un mélange de prose et de haïkus. Dans La lumière au bout du pays, il est question, bien sûr, du quotidien, du paysage. Quand tu vis face à la mer, le rythme est différent de quand tu vis face à un mur de briques, forcément. Oui. Le bruit de la ville, là, c'est le grand silence, le temps qui passe, la vie autour de soi dans les petites choses. Et Joanne Morancy, c'est comme si elle nous ouvrait ses carnets d'écriture puis des textes à voir. Dans un premier temps, elle rend hommage à Françoise Bugeaud, qui est une poète-artiste qui est née à Bonaventure et qui a publié un texte qui s'appelait « À toi qui n'est pas née au bord de l'eau ». Et puis, ben, elle a fait comme une réponse à l'être à toi qui est née au bord de l'eau. Et c'est un très, très beau texte qui montre finalement c'est quoi la différence entre vivre ici et vivre en ville. Elle dit, entre autres, je vous cite un passage, « Je suis venue dans ton pays de grandeur, un pays sans peur et sans courroie. J'y ai planté mon âme debout sur la grève, marée montante. Je n'ai pas encore tout bu des lumières, tout compris des brouillards. » Elle dit finalement qu'elle aurait aimé ça, naître ici, grandir ici, pour être capable de vivre comme les autres gens. Parce que ce qui est difficile quand tu vis en Gaspésie, c'est vraiment de t'adapter, je dirais, aux saisons. Alors plus loin, elle dit... J'aurais aimé être la fille arrogée à Henri, parce que les Arsenault, à Bonaventure, sont obligés de faire leur généalogie comme ça quand ils
comme, comme aux îles.
Oui, c'est ça, exactement. Et puis, elle va dire, à toi qui es né au bord de l'eau, apprends-moi à semer sans attendre, à pêcher sans me presser, apprends-moi à croquer dans la pleine lune et dans l'imprévisible. Donc, une poésie prosaïque, très, très limpide, là, c'est pas de la poésie compliquée. Et au fil des saisons, du temps qui passe, il y a toujours cette lumière comme l'espoir dans le paysage de la Gaspésie. Et puis là, ben, elle a divisé son recueil en quatre parties, qui sont les quatre saisons. Et une qui me plaît, c'est « Le printemps arrive, purement théorique, une dernière tempête après l'autre. » C'est le printemps, il est long, il s'étire. C'est comme s'il n'existait pas vraiment.
Il y a juste le calendrier qui le dit.
Exact. Et puis, il y a des gens qui me disent, ah ben ça, c'est les tempêtes des trous de grange. Il y a comme des noms aux dernières tempêtes là, qui finissent plus de finir. Ça prend le moral et c'est ça, peut-être, elle qu'elle trouve difficile. Et puis, devant la grève qui est devant elle va raconter l'été avec toutes les activités ici, la pêche au bar rayé, les gens qui vont jaser sur le quai, les gens qui vont se baigner, tous les touristes qui viennent. Puis arrive l'automne, ça, je trouve ça très beau. Elle dit, je corde mes livres comme autant de feu à lire lorsque dehors ne sera plus que ténèbres au détour de 16 heures, que ma voix fêlera sous les voiles. Puis effectivement, vers la fin août, début septembre, la lumière change, puis la noirceur arrive de plus en plus vite. Et l'hiver est long. Puis en hiver, elle dit, dans la cuisine, ma soupe aux légumes sans la famille. Alors, c'est réconfortant, c'est très beau. Donc, un recueil que je propose pour des gens qui viendraient en Gaspésie, qui sont venus puis qui veulent s'en rappeler, ça s'appelle « La lumière au bout du pays » de Joanne Morancy et c'est aux éditions David.
D'ailleurs, c'est mon cas. Je vais passer quelques semaines à Matane pendant l'été. Alors, je pense que je vais aller faire un croche vers ma librairie favorite.
Qui est?
En Gaspésie? Non, pas en Gaspésie, celle-là.
Ah, okay.
Mais à Ville d'Anjou. Pour aller chercher ce recueil.
Il y en a de très belles ici aussi. Le deuxième titre dont je veux vous parler s'intitule « L'autonomie des fleurs sauvages » de Julie Dugal, au poète de brousse, c'est paru au printemps, je crois. C'est une romancière et poète qui est née à l'Ascension, dans les Hautes-Laurentides, mais qui vit maintenant à Montréal, mais qui retourne régulièrement dans la nature, dans la forêt où elle a grandi, parce que pour elle, c'est sa façon de survivre à la ville, si on peut dire ça. Elle avait publié, il y a quelques années, en 2020, « Nos forêts intérieures » aux éditions Marchand de feuilles, un roman que j'ai adoré, qui a été finaliste au prix des libraires, finaliste au prix France-Québec, finaliste au prix Sangor. Et puis, C'est un peu la même thématique qu'on retrouve dans ce livre-là, c'est-à-dire son enfance, la nostalgie de ce qu'elle a vécu et la transmission. Qu'est-ce qui reste de ce que sa grand-mère, sa mère, elle, vont transmettre au fil des ans? Elle a deux filles, elle parle de la difficulté de transmettre les passions qui ne sont pas les mêmes à travers les générations. Puis, il y a bien sûr question de territoire, d'environnement, de consommation et de la nature, évidemment. Alors, dans ça, elle raconte toute son enfance et avec sa famille, ses cousins, ses cousines, ses oncles, ses aunts, ses tantes étaient autour des arbres, dans la forêt. Et ce territoire-là lui a enseigné plein de choses qu'aujourd'hui, on ne connaît plus, finalement. On n'apprend pas à vivre dans la forêt. Mmh. Elle aussi, elle a divisé son recueil en quatre parties qui ne sont pas les saisons, mais plutôt le rythme des semences. Ça commence par éclore, la floraison, les jeunes pousses et résistons-nous à l'hiver. Donc, c'est le lien avec ce qu'elle a semé. Puis, ce qu'elle a semé dans ce cas-ci, ben, c'est deux jeunes filles qui ont des goûts tout à fait différents d'elle. Elle va dire aux autres, ils rêvent d'aller à Disneyland. Moi, je rêve de les amener dans un camp, dans le bois, pas d'électricité. Et pour avoir vécu ça avec ma fille quand elle était jeune, je comprends très bien que pour eux autres, c'est vraiment difficile. C'est comme si on les déconnecte de la réalité, puis on a hâte de retrouver la civilisation. C'est un beau texte, très féminin, sur la transmission intergénérationnelle, puis la fragilité de ce qu'on transmet à travers le temps. Je vous donne un exemple ici de son plaisir qu'elle a à s'en aller comme ça et s'isoler. Elle dit: dans le bois, je perds de vue la job, les enfants, les résidus de savon qui s'encrassent entre les joints de la salle de bain. Je n'ai pas le sens des responsabilités, j'essaie d'avoir le sens d'orientation. Donc, oui. ça décrit comment elle décroche, finalement, puis qu'elle se centre sur le chemin qu'elle fait. Puis elle parle de sa grand-mère qui, a eu une vie difficile, mais qui était toujours souriante, qui avait l'air de prendre plaisir à la vie. Puis elle essaie d'être comme elle parce qu'elle se dit que sa grand-mère, c'est une femme forte. Alors elle veut, elle, être semblable à elle. Et puis elle dit: « Grand-maman, entends-tu les pleurs des conifères rester debout la nuit quand s'arrête le chant des pépines? » Parce qu'elle parle, bien sûr, de la déforestation, de ce qui reste de ces forêts d'enfance et qui sont en voie de disparition. Puis elle pense à ses enfants, finalement, à qu'est-ce qu'elle va leur laisser. Et elle trouve que c'est un peu fou. Et puis elle parle de la consommation, de la mode, le fait qu'on va remplacer sa cuisine alors qu'elle fait très bien la cuisine. Pourquoi faut tout démolir ça? Bon, elle est observatrice de ce qui se passe autour d'elle, puis le fait de revenir dans ses Laurentides, je dirais que ça redonne vie à ce qu'elle veut faire, à ce qu'elle veut transmettre. Ça lui donne la motivation, je dirais. Mm-hmm. Elle dit aussi que la famille qu'elle a connue là-bas meurt, disparaît. Je cite Marcel, Lise, Sylvain, Marilyn, mes oncles, mes tantes, cousins, cousines disparaissent en même temps que les arbres, finissent en deux par quatre. Nos forêts tombent les unes après les autres. Ça, c'est très drôle aussi. Puis elle raconte un souvenir d'enfance où jeune, sa mère lui disait de ramasser des petites cocottes, puis qu'elle allait vendre ça. Il y a des gens qui les achetaient. Puis avec ça, elle lui achète des souliers quand elle va en ville à Mont-Laurier. Et puis elle dit qu'elle rentre avec la gomme d'épinette dans les ongles. Elle dit un peu comme du futur plywood. Là,
oui, oui.
Donc tout le thème du bois, de la forêt, de la passation, c'est un très beau livre, magnifiquement bien écrit, avec une belle couverture qui fait rêver aussi, avec une espèce d'aquarelle de fleurs.
Oui, oui,
et ses fleurs sauvages, ce sont ses enfants. Puis elle dit qu'elle a mis au monde des fleurs sauvages, mais elle n'a pas le guide pour les faire pousser, les soigner. Il faut y aller au meilleur de sa connaissance, c'est ça finalement. Donc, deux beaux recueils situés dans l'espace, dans le territoire québécois, que vous preniez vos vacances dans le nord ou dans l'est.
Oui, oui, oui. Et qui abordent des thèmes aussi très, très d'actualité. Alors, je
pense. Pas à la Gaspésie, mais qui se limite à tout le Québec, finalement.
Oui, tout à fait. Alors, je pense que je vais transgresser le jour. C'est au mois d'août, il me semble, le 12 ou quelque chose du genre, là, où on achète avec plaisir des livres du Québec. Moi, je pense que je vais transgresser la règle, puis je vais le faire bien avant.
Bien sûr.
Alors, merci pour ces suggestions. Donc, on parlait du livre de Joanne Morency, La lumière au bout du pays, et de Julie Dugal, c'est ça?
Julie Dugal, oui. L'autonomie des fleurs sauvages.
Un grand merci, Anne-Marie, et au plaisir de se reparler.
Ben, merci, au revoir.
Rose and flows of angel hair in ice cream castles in the air and feather guys everywhere. Tears and fears and feeling proud to say I love you right out loud. Dreams and schemes and circus crowds. I've looked at life that way, but now friends, they're acting strange. They shake their heads, they tell me that I'll change. Well, something's lost and something's gained in living every day. It's life's illusions I recall. I really don't know life. I really don't know life.
Both Sides Now, une chanson de Joni Mitchell, ici chantée par Lao Noah.
Et je note.
Oui, Lao Noah vaut vraiment la peine d'être connu.
Mm-hmm. Et c'est une découverte pour moi, et c'est sûr, je note. Ça va faire partie de mes écoutes de cet été. Du côté des paractualités, je vous lis un article qui a paru dans le Journal de Montréal d'hier, présenté par Richard Béliveau, qui est docteur en biochimie et bien connu. Je vous parle souvent dans d'autres émissions animées par Hélène Denis de l'importance de faire de l'activité physique, peu importe notre âge. Je pense que ça vient, c'est un thème qui ressort de cet article. L'obésité hausse le risque de démence précoce. Les personnes âgées de 40 à 60 ans qui sont en surpoids et atteintes du syndrome métabolique sont à plus haut risque de développer une démence vasculaire ou la maladie d'Alzheimer avant l'âge de 65 ans. Une étude récente rapporte que l'obésité est associé à une hausse très importante du risque d'au moins 16 conditions chroniques incapacitantes, en particulier l'apnée du sommeil, le diabète de type 2 et la stéatose hépatique. Dans plusieurs cas, ces pathologies découlent des énormes bouleversements métaboliques qui accompagnent l'excès de graisse, surtout lorsqu'il est localisé au niveau abdominal. Il est en effet bien documenté que ce type d'obésité est fréquemment accompagné d'une hypertension, d'une hausse de la glycémie, d'une réduction du cholestérol, HDL, le bon cholestérol, et d'une hausse des triglycérides, une constellation d'anomalies connues sous le nom de syndrome métabolique. En plus de représenter un important facteur de risque de maladies cardiovasculaires, infarctus, AVC et de diabète de type 2, le syndrome métabolique semble également avoir un impact négatif sur le cerveau et a été associé à un risque accru de déclin cognitif et à une accélération de la progression de démence. Avec la forte hausse du nombre de jeunes adultes obèses, on peut donc craindre que l'incidence croissante du nombre de personnes atteintes d'un syndrome métabolique se traduise par une augmentation du nombre de personnes affectées précocement par des atteintes cognitives. En ce sens, on a observé que chez les jeunes adultes entre 18 et 30 ans, la présence de certaines composantes du syndrome métabolique, l'hypertension, l'hyperglycémie en particulier, était associée à un déclin de plusieurs fonctions cognitives dès la cinquantaine. Une démence précoce, qu'elle soit d'origine vasculaire, causée par une atteinte aux vaisseaux qui irriguent le cerveau, ou de type Alzheimer, est définie comme une démence qui débute avant l'âge de 65 ans. Selon les résultats d'une étude coréenne, le risque de développer ces démences précoces augmente significativement chez les personnes atteintes d'un syndrome métabolique. Dans cette étude d'envergure, menée auprès de 2 millions de personnes âgées de 40 à 60 ans et suivie en moyenne pendant 8 ans, c'est quand même un travail énorme, les chercheurs ont observé que la présence d'un syndrome métabolique était associée à une hausse de 25 % du risque de démence diagnostiqué avant l'âge de 65 ans. Cette augmentation du risque semble principalement liée aux démences vasculaires, hausse de 37 % mais également observée par la maladie d'Alzheimer qui, elle, connaît une hausse de 20 % dans ces circonstances-là. Il est donc probable que les mécanismes moléculaires responsables de ces démences précoces soient différents de celles qui touchent les personnes très âgées, dont la neurodégénération est principalement liée au processus de vieillissement. Les anomalies métaboliques causées par l'obésité, en particulier l'inflammation chronique, la résistance à l'insuline et l'hypertension, ont des effets catastrophiques sur les vaisseaux sanguins qui accélèrent le développement des démences vasculaires, ce qui expliquerait la plus forte augmentation de ce type de démence chez les personnes jeunes. D'ailleurs, l'étude montre que les hausses du risque de démence précoce sont encore plus prononcées chez les jeunes chez les personnes chez qui le syndrome métabolique a été diagnostiqué plus jeune, soit dans la quarantaine. Ce qui suggère qu'une plus longue exposition aux anomalies de tension artérielle, de glycémie et de molécules inflammatoires typiques de ce syndrome a accéléré la progression de ces neurodégénérescences. Chose certaine, ces résultats montrent encore une fois que le vieillissement n'est pas le seul facteur de risque de maladies chroniques incapacitantes. Le mode de vie est très important. Il n'y a aucun doute que le contrôle du poids corporel représente une facette incontournable pour prévenir le développement de ces maladies et leur impact négatif sur la santé, tant du point de vue physique que mental. C'était donc un article que j'ai trouvé dans le Journal de Montréal d'hier et qui m'a été aussi relayé par mon bon ami Mathieu. Qui s'appelle « L'obésité hausse le risque de démence précoce ». On peut trouver ça dans le Journal de Montréal d'hier sous la plume de Richard Béliveau. Alors, je continue sur l'article que j'ai commencé à lire hier sur les activités sportives accessibles à faire sur l'eau cet été. Hier, je vous parlais de voile adaptée. Aujourd'hui, je vous parle de planche à pagaie. Il est donc possible de se procurer une planche à pagaie adaptée aux besoins des personnes ayant une limitation fonctionnelle, soit plus grande et plus stable. Elle peut accueillir une personne ayant une déficience motrice ou une personne en fauteuil roulant et une personne qui l'accompagne au besoin. Puis vous pouvez aller voir sur le web, là, il y a des photos de ce genre de planche à pagaie. Il n'est pas nécessaire de se procurer une planche pour glisser sur l'eau paisiblement. Différentes organisations offrent des sorties organisées ou le prêt de planches à pagaie adaptées. Il y a OSIJA, qui est O-S-I-J-J-A. Il y a le SIVA, qui est un de nos partenaires à l'émission 5e édition. Il y a Paddleboard SUP adapté et la Fondation des sports adaptés qui offre des activités ponctuelles de SUP adaptées. Et le Parc national de Frontenac de la CEPAC offre le prêt d'une planche à pagaie adaptée. Donc, je penserais, moi, que c'est une très belle activité, tout en douceur à faire, et que les personnes qui pensent qui n'ont pas accès à cette activité-là, je pense qu'il faut y repenser parce qu'il y a eu des adaptations qui ont été faites pour vous le permettre. Alors, je remercie pour cette émission d'aujourd'hui Mathieu Tessier qui est en régie. Bravo Mathieu et les beaux choix de musique. Et un petit coucou à Hélène Denis c'est elle qui a fait la recherche pour l'entrevue avec Carmen Sylvestre. Elle m'a offert un beau bonbon pour cette journée d'aujourd'hui. Et on vous revient demain à 9h30.